Chers frères et sœurs, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit l'Éternel, je suis présent au milieu d'eux. Voilà la grâce qui nous est faite une fois de plus. Nous qui sommes réunis au nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Nous voici réunis pour vivre en temps ensemble ce temps de culte, pouvoir exprimer notre adoration, pouvoir recevoir des paroles de vie qui nous aident à nous tenir dans ce monde parfois un peu chaotique, il faut bien le dire. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter au psaume 5, la seconde strophe, psaume 5, la deuxième strophe. C'était une très belle intériorisation. Je vous propose que maintenant, que nous connaissons un peu mieux la mélodie, nous le reprenions et que nous balbutions au moins quelques mots. Restons debout. Il y a deux semaines, nous entendions le récit du livre des Actes des Apôtres qui racontait l'épisode de la prédication de l'apôtre Paul à Athènes. Et sa prédication avait laissé les Athéniens assez circonspects, à l'exception de quelques-uns, parmi lesquels Denis l'Aréopagite. Denis l'Aréopagite est quelqu'un de connu dans la tradition chrétienne. Il a laissé quelques écrits et il écrit ceci d'ailleurs. Pour vivre en Dieu, ce qui nous intéresse, pour vivre en Dieu, il faut nous assimiler à sa bonté autant que possible. Mais cette imitation de Dieu, écrit-il, comment la réaliserions-nous sinon en renouvelant sans cesse la mémoire de ses très saintes actions? C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons l'habitude de commencer le culte par une louange à Dieu, cet acte de mémoire des actes bienveillants au bénéfice desquels nous sommes. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, à travers les récits des textes bibliques, nous découvrons que tu as arraché l'humanité à sa nature chaotique. Tu as fait œuvre de réconciliation pour les fratries divisées. Tu as parlé face à face avec Moïse. Tu as fait crier et pleurer les prophètes. Tu as fait jaillir les psaumes de ton peuple. Tu as murmuré la sagesse des proverbes. Dieu vivant, tu as mis le Magnificat dans la bouche de Marie. Tu as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils. Tu as mis la confession du Christ dans celle de Pierre. Et tu nous donnes les mots, ces mots qui nous permettent de rendre compte de notre espérance. Par ton Esprit, tu nous rends capables de donner du sens à nos phrases. Tu nous rends capables de faire en sorte qu'elles deviennent pour nous ta parole. Grâce te soit rendue de donner du sens à notre vie, de la rendre belle et enthousiasmante à la lumière de l'Évangile. Amen. Frères et sœurs, en prenant le psaume 92 dans sa version A, nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Psaume 92 A, strophes 1, 2 et 4. Prenons place et nous reprendrons le psaume 5 pour ponctuer notre liturgie. Je continue avec un texte qui s'inscrit dans la tradition de Denis l'Aréopagite, plus exactement le pseudo-Denis, car ce n'est pas Denis l'Aréopagite, contemporain de Paul, qui a écrit ces textes, mais un auteur du 5e siècle. Et en Angleterre, dans la fin du Moyen-Âge, nous avons un auteur qui écrit ceci et qui peut nous tenir lieu de prière de repentance ce matin. Éternel, je me tourne vers toi pour implorer ton secours. Veille à ce qu'il n'y ait rien qui occupe mon esprit, sauf une seule intention. Un simple regard fixé sur toi, sans que vienne s'y mêler aucune pensée particulière sur toi, sur ce que tu représentes ou sur les œuvres qu'on t'attribue. Aide-moi seulement à ouvrir ma conscience nue au fait que tu es ce que tu es. Oui, que tu sois tel que tu es, que je ne te conçoive pas autrement, je t'en prie. Que je ne cherche rien de plus à ton sujet, mais que ma foi soit une adhésion ferme à toi et à toi seul. Ce regard fixé vers toi, Éternel, ce regard dépourvu d'idées, ce regard ancré consciemment dans la foi, laisse mon esprit et mes sentiments dans un vide profond. Ce regard fixé vers toi, laisse mon esprit dans une pensée dépouillée, et un sentiment obscur de ton propre être. C'est comme si tout mon désir criait vers toi, Éternel, et que je dise « Ce que je suis, ô Seigneur, je te l'offre. Je te l'offre sans m'arrêter à aucune des qualités de ton être, mais en affirmant seulement que tu es ce que tu es. Rien de plus, rien de moins. Aide-moi. Aide-moi à être qui je deviens. » Amen. Prenons la première strophe du psaume 5. Jésus, lors de la prière qui suivit le dernier repas qu'il prit avec ses disciples, révèle la grâce qui nous a été faite et qui répond à notre prière de repentance. C'est l'évangéliste Jean qui nous rapporte ces mots. Ces mots nous disent ceci. Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. » Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, la grâce qui nous est faite, la grâce d'une vie éternelle, d'une vie sans regret, d'une vie portée à son incandescence. Chantons à Dieu notre reconnaissance par la troisième strophe du psaume 6. La réponse est simple, c'est nous. C'est nous, en vertu de ces paroles que Jésus adresse à ses disciples au moment de les quitter, toujours dans l'Évangile selon Jean. Voici ce que rapporte l'évangéliste. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alors, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous dis toutes ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Frères et sœurs, nous avons l'habitude, en réponse à cette grâce, d'exprimer notre foi. Et je vous invite à vous lever pour déclarer cette foi, en continuant cette tradition de Denis l'Aréopagite, de ces théologiens qui ont fait la promotion d'une théologie qu'on appelle négative et dont je vous reparlerai. Et finalement, nous pourrions, nous aussi, essayer de dire notre foi en adoptant cette tradition spirituelle. Par exemple, avec ces termes. Personnellement, je ne croirai jamais en un Dieu qui aimerait la souffrance, en un Dieu qui ne se laisserait pas tutoyer, en un Dieu qui serait le monopole d'une église, d'une race, d'une culture, d'une caste, en un Dieu qui jugerait toujours avec le règlement à la main, en un Dieu incapable de comprendre que les enfants puissent se salir et soient parfois un peu étourdis, en un Dieu qui exigerait que l'homme, pour grandir, dût renoncer à son humanité, en un Dieu à qui serait agréable la générosité de celui qui ne pratique pas la justice, en un Dieu qui se repentirait d'avoir donné la liberté à l'homme. Personnellement, je ne croirais jamais en un Dieu qu'on ne pourrait pas prier, ou alors qu'on ne prierait qu'à genoux, ou qu'on ne pourrait trouver que dans les églises. En un Dieu incapable de remplir d'amour le cœur des humains. En un Dieu qui ne se serait pas fait homme véritablement. En un Dieu dans lequel je ne pourrais pas, moi, espérer contre toute espérance. Oui. Mon Dieu, c'est l'autre Dieu. Amen. Frères et sœurs, prenons le cantique 562. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 562. Prenons place. Après la lecture biblique, nous chanterons le cantique 405 à la strophe 3 que vous pouvez d'ores et déjà préparer. Avant de lire le passage de la Bible que j'ai retenu pour notre méditation, prenons le temps de la prière. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que nous avons entendu parler de toi. Parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois, tu nous parais lointain, silencieux, absent. Mais nous avons entendu parler de toi, et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Nous sommes invités à y redécouvrir le trésor qui a été mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Amen. Frères et sœurs, dans le prolongement de tous ces théologiens que nous avons convoqués pour nous donner les mots pour notre culte, j'ai retenu un passage biblique dans le livre de l'Exode au chapitre 20, qui est le plus souvent ignoré parce qu'il est juste après le décalogue. Il y a ce passage biblique immense, les 10 paroles données au peuple pour qu'il reste un peuple libre. Et en général, cela suffit à notre méditation quotidienne. On referme la Bible et on intériorise cela. Et du coup, on ne lit jamais ce qui suit. Voici donc au chapitre 20, les versets 18 à 24. Nous sommes du côté du Sinaï ou de l'Horeb dans la tradition sacerdotale. Nous sommes entre l'Égypte et la terre promise. Tout le peuple, donc Israël, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait. Il se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse entra dans la nuit obscure où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où j'invoquerai mon nom, je viendrai à toi. Et je te bénirai. » Frères et sœurs, chantons donc la troisième strophe du cantique 405 avant de nous plonger dans ce texte biblique. Restons assis. Chers frères et sœurs, les nouvelles gouvernementales ne sont pas toujours les plus mauvaises. Vous savez que quoi qu'il arrive, la prédication ne durera pas au-delà de 20h30, de façon à vous laisser le temps de rentrer chez vous. Et peut-être cette nouvelle, d'ailleurs, pourrait être l'occasion pour nous d'une nouvelle expérience. Profiter de ce couvre-feu instauré ce week-end comme l'occasion d'une expérience spirituelle, justement dans la veine de ces théologiens qui nous ont donné les mots du culte, comme je vous le disais. L'expérience qui est d'abord celle de Moïse, ici, dans ce texte, qui, nous le verrons, est aussi celle de l'apôtre Paul, l'expérience de Jean de la Croix, celle de Maître Eckhart, la nôtre, peut-être, nous verrons. C'est l'expérience de Dieu sans distance, sans médiation, sans écran. C'est l'expérience de Dieu à rien que Dieu. L'expérience de Moïse commence, nous l'avons entendu, par l'entrée dans ce que le rédacteur biblique nomme l'obscurité. Le traducteur grec a utilisé le mot gnophos, la ténèbre. J'ai repris l'expression de Jean de la Croix, la nuit obscure. Je cite la première strophe de son poème particulièrement connu. Au milieu d'une nuit obscure, d'angoisse, d'amour enflammé, oh, la bienheureuse fortune! Je sortis sans être aperçu, ma demeure étant pacifiée. Voyez-vous, à défaut de rejoindre la nuit effervescente, la nuit blanche, la nuit de toutes les folies, pourquoi ne pas en profiter pour une fois pour entrer dans une nuit obscure, notre demeure étant pacifiée. À la strophe suivante, Jean de la Croix dit ceci: je gravis dans l'ombre très sûre, déguisée, l'échelle secrète. Oh, la bienheureuse fortune! Dans les ténèbres, en cachette, ma demeure étant pacifiée. Dans la tranquillité de la nuit, où plus aucune activité n'agite ni le corps ni l'esprit, loin des turpitudes de la vie quotidienne, gravir l'échelle secrète, cette échelle qui nous fait accéder à notre intériorité. Entrer dans la nuit obscure, comme on entre en religion, loin du peuple qui est fasciné par les lumières de la ville, le tonnerre, les éclairs, le bruit des affaires, les vibrations du monde. S'éloigner, un moment, du cœur battant du monde, pour se mettre à l'écoute de son propre cœur. C'est l'expérience de Moïse. Ce sera l'expérience d'Élie, également au mont Horeb, selon le premier livre des Rois, pendant une nuit, justement. Une nuit pendant laquelle il découvre que Dieu n'est ni dans le grand vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une voix de fin silence, pour reprendre la traduction de Lévinas. Profiter du couvre-feu pour emprunter cette échelle secrète qui nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes et faire l'expérience de Dieu qui ne se fait jamais dans ce qui est brillant ou éclatant. Songez à Jésus qui refuse les miracles spectaculaires ou qui n'y concède que du bout des doigts, du bout des lèvres. Parce que l'expérience de Dieu ne se fait pas au milieu du peuple rassemblé qui exulte ou qui tremble, qui s'agite. L'expérience de Dieu se fait dans la nuit obscure, dans la ténèbre, dans le chaos de l'existence plutôt que dans l'excitation populaire. L'expérience de Dieu n'est pas de l'ordre de la frénésie. Elle est de l'ordre de cette maison sereine. Jean de la Croix parle de demeure pacifiée. L'expérience de Dieu commence selon ce que notre culte donne à vivre. Dans l'ombre de Dieu, on s'en remet à lui. C'est le sens de la louange au début du culte. Et nous entrons en nous-mêmes, dans la profondeur de notre être, par la prière de repentance, qui est moins la liste de nos fautes de la semaine que la sortie de soi hors des certitudes qu'on n'interroge plus. Prendre le temps d'interroger notre existence, le temps de la relecture, la religion au sens strict du terme, non pas religuérer, se relier, ce qui est sympathique, mais à vrai dire, on ne fait pas église pour être sympa. Reléguérer, relire, le temps de la relecture, le temps de la confrontation de toi, de soi, à ce qu'il y a de plus ultime dans la vie. Et puis, la parole de grâce, cette bénédiction qui vient à la fin du passage biblique que nous avons entendu, cette bénédiction qui nous fait comprendre que cette traversée de la nuit obscure, cette traversée du chaos, débouche sur cette demeure pacifiée, cette possibilité de nous tenir dans une terre promise, où ce qui est promis relève du lait et du miel, pas de l'angoisse, pas de l'hésitation, pas de la terreur. La prière de repentance est une démarche de vérité. Dans la nuit obscure de notre existence, au cœur de notre ténèbre. Non pas remettre le couvercle sur ce que nous sommes profondément, mais ouvrir ce couvercle et pouvoir laisser s'épanouir ce que nous sommes appelés à devenir. Non pas « deviens qui tu es », comme le disait Nietzsche, mais « sois qui tu deviens », comme le disait André Gide. C'est une démarche de vérité qui nous permet de laisser derrière nous les images pieuses qu'on se fait de soi et qui n'ont que peu à voir avec ce que nous sommes vraiment. Le temps du culte pour le temps de la vérité. Cette entrée dans la nuit obscure, c'est le travail sur l'orgueil que font tous ceux qui entreprennent une démarche de foi véritable. Qu'elle soit guidée par Ignace de Loyola ou par Pierre de Bérulle, pour l'école de la spiritualité française. Qu'elle soit guidée par les personnages bibliques, Paul inclus, qui parlera de l'écharde dans sa chair qui l'empêche d'être orgueilleux. C'est la nuit obscure qui se vit pour que puisse se vivre l'expérience de Dieu. Parce que cette nuit obscure nous fait devenir comme des aveugles. Et c'est cela que les mystiques nous font comprendre. L'expérience de Dieu implique que nous devenions aveugles, comme le fut autrefois l'apôtre Paul. Je cite Jean de la Croix, dans la montée au Carmel. L'âme doit se vider si complètement de tout ce qu'elle peut recevoir, qu'au milieu même ses dons surnaturels, elle en reste comme dépouillée. Et demeure dans les ténèbres, en aveugle, appuyée sur la foi obscure qu'elle a prise pour son guide et sa lumière, en ne s'appuyant sur rien de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle goûte, de ce qu'elle sent, de ce qu'elle se représente. Si la nuit obscure est le cadre propice pour faire l'expérience de Dieu, ce qui caractérise cette expérience, c'est donc ce qui caractérise la foi. C'est ce que nous venons d'entendre. Une foi sans contenu, finalement. Une foi sans connaissance. C'est cela, peut-être, qui est le plus difficile à concevoir. Parce que le christianisme a développé une dogmatique extrêmement subtile. Et quand je dis une dogmatique, ce sont des dizaines de dogmatiques, des dizaines de cathédrales théologiques qui ont été bâties, édifiées au fil des siècles et dont nous disons qu'il faut les honorer pour être fidèles au Dieu de Jésus-Christ. Mais lorsque Paul, sur le chemin de Damas, fait l'expérience mystique qui le conduira à devenir le plus important des apôtres de Jésus-Christ, le rédacteur du livre des Actes des Apôtres, c'est au chapitre 9, écrit que Paul voit rien. Il ne dit pas que Paul ne voit rien. Il dit que Paul voit rien. Et Maître Eckhart de commenter dans son sermon 71 que ce rien était Dieu. L'expérience que la foi fait de Dieu, c'est que Dieu est rien, rien que Dieu. Il n'est ni quelque chose qu'on saurait, ni quelqu'un qu'on connaîtrait. La nuit obscure conduit à cette expérience qui vaut aussi pour Moïse. Dieu est rien, au sens où l'expérience de Dieu nous fait abandonner nos savoirs, nos prétentions à définir Dieu. Moïse n'annonce pas au peuple que tout ce qui se passe arrive pour savoir qui est Dieu enfin, ou pour connaître Dieu. Il dit que cette expérience doit aboutir au fait que sa crainte soit devant la face du peuple. Ce n'est pas un contenu. On pourrait dire que c'est plutôt une émotion. C'est une façon d'être, une posture face à la vie. L'expérience de Dieu n'est pas une expérience gnostique qui nous initierait en nous faisant savoir qui est Dieu. L'expérience de Dieu est plutôt une expérience agnostique, une expérience qui fait tomber tout savoir sur Dieu. Parce que Dieu n'est pas une chose, il n'est pas un être parmi d'autres ou un être au-dessus des autres, un être d'exception qui serait l'occasion d'un savoir particulier. La foi en Dieu est plutôt une foi agnostique en vérité. Et on pourrait dire que Moïse entre dans la nuée, que nous pourrions aussi appeler le nuage de l'inconnaissance. Parce qu'ici, Dieu n'est pas un objet de savoir ou de connaissance. Dieu est ce qui provoque le sentiment religieux, extrêmement bien décrit dans ce passage biblique, à la fois parce que Moïse entre dans cette nuit obscure. J'allais dire, il ne peut résister à l'appel de cette nuit obscure. Et en même temps, il y a ce tremblement, il y a cette peur, cette crainte. Voilà les deux caractéristiques paradoxales du sentiment religieux. Le sentiment lumineux, pour prendre le terme technique, dont parle admirablement bien Rudolf Otto, par exemple, dans son étude sur le sacré. À la fois une fascination et à la fois une profonde terreur. Ce double mouvement paradoxal est le signe caractéristique d'une véritable expérience mystique, l'expérience de Dieu, sans intermédiaire, sans médiation, sans écran, sans réseau Wi-Fi non plus. C'est la raison pour laquelle le judaïsme, notamment au temps de Jésus, avait l'habitude de désigner les croyants comme des craignants Dieu. On peut toujours se dire que c'est parce que la religion développée à l'époque était une religion d'oppression, qui faisait qu'il fallait avoir peur, peur de ce qui allait arriver. Pensons plutôt à une crainte respectueuse. Vous savez, ce genre de crainte, y compris dans la relation amoureuse, qui développe une forme de peur, parce que c'est immense, mais aussi parce qu'on a peur que cela disparaisse, s'effrite. Ceux qui savent Dieu, ceux qui prétendent pouvoir parler au nom de Dieu, ceux qui savent ce que Dieu voudrait, ne parlent pas de l'Éternel, le Dieu que révèlent les textes bibliques. Ceux qui savent Dieu, ceux qui peuvent parler au nom de Dieu et dire quelle est sa volonté ici et maintenant, parlent en fait du Dieu de leur fantasme et tout particulièrement du Dieu de leur fantasme de toute puissance. La théologie négative, puisque c'est de cela dont il est question, est une théologie qui permet aussi de ne pas se tromper de Dieu. Et c'est peut-être l'un des intérêts majeurs de la théologie négative, qu'on appelle aussi théologie apophatique. Et le terme est intéressant, parce que la théologie apophatique est celle qui rejette au loin, apo, ce qui n'est qu'une opinion, phémie. La théologie, ici, rejette la république des opinions, où chacun a quelque chose à dire pour se rendre intéressant. La théologie privilégie au contraire les convictions qui sont passées par la nuit obscure, par le tamis de la critique et le feu de l'expérience personnelle confrontée à Dieu. C'est cette théologie qui repousse les lieux communs loin du champ de la foi. C'est celle qui repousse les évidences invérifiées. C'est celle qui repousse les discours péremptoires et non argumentés. C'est cette théologie qui évite de faire à côté de Dieu des idoles, des dieux d'argent et d'or, des dieux de bricole, des dieux à la petite semaine, des dieux qui nous arrangent, des dieux à notre mesure, des dieux sur mesure. Pensons à ce qu'écrit Thérèse de Lisieux, une contemporaine de Jean de la Croix, dans le château intérieur ou les demeures de l'âme. Elle parle justement, pour ces femmes du Carmel, du risque de se fourvoyer dans la prière, d'avoir une vie spirituelle orientée vers autre chose que Dieu. Elle consacre une partie de son travail sur les tromperies dans le cadre de la prière. qui peuvent très bien nous conduire à nous attacher à des choses vaines, qui nous apportent une satisfaction momentanée, mais qui n'ont rien de divin et qui ont tout du démon, pour reprendre le terme de Thérèse d'Avila, qui s'applique si bien à ceux qui déclarent faire justice au nom de Dieu, alors qu'ils ne font que transformer leur frustration ou leur rancune en force de destruction, le daimon. Ce travail de la théologie négative, de la théologie apophatique, qui repousse au loin les opinions infondées, c'est aussi le travail passion, décrit avec détail par le philosophe René Descartes dans le discours de la méthode. C'est le travail du doute, un doute véritable, pas une hésitation passagère, le doute véritable, la véritable traversée de la nuit obscure. C'est le travail du doute qui peut nous aider à nous débarrasser de toutes les fausses idées, de toutes les opinions de pacotille que nous tenons pour des vérités sur Dieu et qui ne sont que des inventions personnelles qui nous arrangent bien. Voilà pourquoi, lorsque nous faisons ce travail sérieux, nous découvrons qu'il ne peut y avoir, par exemple, de délit de blasphème, parce qu'il ne peut pas y avoir de blasphème, tout simplement. Considérer qu'un propos, un dessin, une mise en scène peut être sacrilège au sens d'une atteinte à Dieu, c'est avoir une bien piètre idée de Dieu au sens d'une atteinte à Dieu. C'est n'avoir jamais fait l'expérience de Dieu. Parce que l'expérience de Dieu, c'est l'expérience que Dieu est bien au-delà de Dieu, pour reprendre l'expression du théologien Paul Tillich. C'est-à-dire toujours au-delà de ce que nous en pensons, toujours au-delà de ce que nous disons de Dieu, et bien sûr, toujours au-delà de ce que nous faisons de Dieu. Dieu est au-delà de nos idolâtries, comme il est aussi au-delà de notre religiosité. Dieu échappe, comme Jésus échappait à la mainmise du peuple, qui voulait en faire sa chose. Et c'est tout l'intérêt de ce verset sur la construction de l'autel. L'autel était ce meuble utilisé pour accomplir les sacrifices au temps du temple de Jérusalem. Les sacrifices étaient ce moment de communion privilégiée avec Dieu. L'ordre de bâtir un autel s'accompagne d'une promesse de bénédiction qui contient un enseignement théologique capital. Ce n'est pas nous qui faisons venir Dieu, ni avec nos bonnes pratiques, ni avec nos bonnes paroles, ni avec nos bons sentiments, ni avec notre bonne bouille. C'est Dieu qui vient, partout où il invoque son nom. C'est Dieu qui a l'initiative de sa présence, et non pas nous. C'est une manière de dire que nous ne contrôlons pas le divin. Nous n'avons pas la main sur le divin. Nous ne pouvons pas nous prévaloir du divin, qui que nous soyons. Nous ne pouvons donc pas agir au nom du divin. L'enseignement de la théologie négative, traditionnellement, est que Dieu est Dieu. Au-delà, ça devient un peu n'importe quoi. Mais la vérité, c'est que si nous prolongeons cela, si nous en tirons les conséquences, si Dieu est Dieu, point. Alors, lorsque nous agissons, ce n'est pas Dieu qui agit, c'est nous qui agissons. Nous ne pouvons pas nous prévaloir de Dieu pour justifier nos actes. D'ailleurs, le thème de la justification par grâce seule n'est pas le thème de la justification de notre éthique, de nos actes. C'est la justification de notre être. Par conséquent, dire Dieu ne devrait jamais se faire qu'avec une extrême humilité, avec la conscience que nous n'avons jamais accès qu'aux traces de Dieu, comme Moïse, qui ne verra que les arrières de Dieu, au chapitre 33 du livre de l'Exode. Autrement dit, il verra la trace de Dieu dans l'histoire, il verra les effets de Dieu dans la vie des personnes, et ainsi, un autre grand mystique, Angelus Silesius, écrira « Les dons de Dieu ne sont pas Dieu. Qui prie Dieu pour ses dons est bien dans le malheur. C'est la créature qu'il adore et non le Créateur. Voyez ce malentendu qui est souvent le nôtre. Lorsque notre prière s'efforce de vouloir obtenir les dons de Dieu, eh bien dans ce cas-là, cela signifie qu'on s'intéresse à Dieu pour notre propre profit. Et c'est une posture narcissique et en vérité une posture perverse. Une posture qui consiste à instrumentaliser Dieu comme on peut instrumentaliser l'autre, en faire son marchepied quand ce n'est pas son essuie-pied. Et c'est ce que font les fanatiques, qui confondent Dieu avec leurs propres aspirations. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, nous, en tant que craignants Dieu, un devoir de régulation dans le champ religieux, pour ne pas laisser entendre que toutes les théologies seraient équivalentes. Parce qu'il y a des théologies qui développent des représentations et des idées de Dieu qui sont tout à fait contraires au Dieu de Jésus-Christ. La foi agnostique est une libération des formes religieuses qui s'arrogent des bouts de Dieu pour en faire le plus souvent des instruments de pouvoir. C'est contre cela que nous devons lutter. La foi agnostique est justement cette foi qui va entrer en guerre contre ceux qui décident de prendre l'étendard de Dieu pour exercer leur propre justice. La foi agnostique est une libération à l'égard des discours qui prétendent détenir Dieu, ce qui revient à en faire sa chose. Et dans ce cas, cette chose, c'est pas grand-chose. La foi agnostique est une libération pour notre spiritualité, qui, une fois débarrassée de tout ce qui n'est pas Dieu, est disponible pour recevoir l'empreinte de Dieu et être inspirée par Dieu. Dieu, je le disais dans la louange, ce qui arrache notre humanité à sa nature chaotique, ce qui fait œuvre de réconciliation entre les fratries divisées, ce qui nous permet d'être face à la vérité, ce qui fait crier et pleurer les prophètes, ce qui fait jaillir les psaumes, ce qui suscite la sagesse, ce qui met le Magnificat dans notre bouche, etc., etc. L'Éternel n'est pas un daimon, une force de destruction. L'Éternel n'est pas un dynamisme destructeur. L'Éternel est un dynamisme créateur, créateur de notre vie. L'Éternel est ce qui fait venir à l'existence ce qui n'existe pas encore. L'Éternel est ce qui suscite notre volonté irrépressible du bonheur qui, inexorablement, passe par la traversée de la nuit obscure pour atteindre sa bénédiction finale. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 403, les strophes 1, 2. et 3 du cantique 403. Prenons place. Je vois que nous avons encore un peu de temps avant 20h30. Je peux donc vous proposer un petit complément d'information. Je me disais, il y a dans nos cultes une sorte de malentendu, peut-être pour celui qui découvre la théologie, notamment la théologie protestante, avec cet écart qu'il y a toujours entre ce qui se dit dans la prédication et finalement ce qui se dit dans le reste du culte, dans nos prières. Parce que on a toujours l'impression que finalement le Dieu dont il est question dans nos liturgies n'est pas le même que celui de la prédication. Alors, ce malentendu a en quelque sorte été levé par Martin Heidegger. Il disait « L'être, le fondement de l'être, on a envie de lui dire « tu ». Eh bien, c'est cela en fait qu'exprime notre liturgie. On peut à la fois tenir Dieu qui est rien, comme le font les théologiens mystiques, et en même temps lui dire « tu ». Parce que c'est l'appel auquel nous répondons. Et notre langage utilise volontiers celui de la relation, pour exprimer qu'il y a une adhésion profonde à cette vision du monde, à cette vision de l'homme. Et donc, de même que nous disons que la liberté guide nos pas, alors que la liberté n'est pas devant nous avec un petit faisceau lumineux, de même que nous disons que la justice est aveugle, alors qu'elle n'a ni yeux ni oreilles, nous pouvons parler de Dieu dans des termes anthropomorphiques, parce qu'il y a pour nous, dans cette expression, une façon de dire notre adhésion, de dire notre relation, de dire le oui inconditionnel en réponse à la grâce qui est faite. Bon, on va s'arrêter là et on va passer aux annonces. Et le sujet est quand même passionnant. Et puis, nous sommes là pour ça quand même, zut. Bien. Alors, dans les annonces, il y a les annonces du calendrier. Il y a jeudi à 18h le cours public à la faculté de théologie protestante, 45 rue Arnaud de Villeneuve. Le professeur Olivier Abel continue son cours public sur les couples. Et cette fois, ce sera à travers le Cantique des Cantiques. Et c'est Corinne Lanoir, qui est professeure d'Ancien Testament à Paris, qui viendra justement nous parler du couple à travers la métaphore développée dans le livre biblique « Le Cantique des Cantiques ». Il y a d'ailleurs une très belle émission de Olivier Abel sur France Culture, sur le Cantique des Cantiques, que vous pouvez réécouter, je pense, en différé, et qui aborde tout un tas d'angles qui vous seront utiles pour vous préparer à jeudi. Et puis, dimanche prochain à 10h30, eh bien, pensez à changer d'heure. Vous allez gagner une heure de plus pour être à l'heure au culte de la Réformation, comme chaque année. Elle n'est pas belle, la vie ? Alors, vous pourrez prendre le temps de réviser les psaumes et cantiques, chanter le psaume 36 pour avoir la mélodie du psaume 68. Ça va être le psaume des batailles, on va le chanter un peu, c'est moi qui vais présider le culte. Il y aura un peu de cantique de Luther aussi. Voilà. Il n'y aura pas de Sévenol, je pense, parce qu'il ne faut pas trop contextualiser, il faut garder une vue surplombante. Sauf si je reçois des emails furieux en disant il faut chanter la Sévenol, mais bon, on verra. La semaine suivante, j'attire votre attention sur le concert qui aura lieu le vendredi 6 novembre, parce qu'il aura lieu à 18h30 et non à 20h30, vous comprenez bien, à cause du couvre-feu. Ici même, avec Gabi Randrian, qui est la fille d'Irène, Randrian Chaka. Elle anime une formation de jazz tout à fait sympathique. Et elle fera une improvisation de jazz, ici, à 18h30, sur un film qui va être diffusé, un film grand spectacle, un film grand public, un peu un film surprise aussi. Et donc, je pense que c'est une expérience intéressante qui mérite d'être vécue. Et ça donnera aussi l'occasion de pouvoir être dans ce temple autrement que nous le faisons habituellement. Le lendemain, samedi 7 novembre, à 18h, Pascal Coirin, qui est le facteur d'orgue de Notre-Dame, mais aussi le facteur d'orgue du temple de la rue Maglone, donnera une conférence sur l'histoire de l'orgue. Et puis, comme vous le voyez sur la feuille, vous aurez la possibilité également de réserver une part de choucroute pour pouvoir ensuite, chez vous, manger cette choucroute qu'habituellement nous mangeons ici, avec les chandelles que les uns et les autres veulent bien apporter et que l'on utilise pour ce repas si romantique que nous ne pourrons pas faire autrement que chez nous, dans notre nuit obscure. J'ajoute deux informations qui sont plutôt des petites annonces. Tout d'abord, vous voyez que notre église recrute une assistante de paroisse ou un assistant de paroisse secrétaire. Vous avez le détail de la fiche de poste. Si vous-même ou l'une de vos connaissances correspond à cette fiche de poste, il suffit de s'adresser à Ariane Bouic, la vice-présidente de notre conseil presbytéral. Autre petite annonce, je suis à la recherche d'un lave-linge. Si jamais vous avez un lave-linge qui ne vous sert à rien ou dont vous voulez vous défaire, je suis preneur. Et puis cet après-midi à 15h, devant la préfecture, il y a un rassemblement des personnes de bonne volonté pour manifester que la vie doit l'emporter, que la fraternité doit l'emporter, que nous ne sommes pas du genre à nous laisser tenter par la réplique violente aux actions violentes. Suite à l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, qui a été disons, décapité pour avoir fait valoir la liberté d'expression, la liberté de conscience et tout simplement l'amour de la liberté et l'amour de la vie. Eh bien, un rassemblement est prévu devant la préfecture à 15h. Notre église sera de toute façon représentée par Marie-Geneviève Zaroukian, la présidente de notre conseil presbytéral. C'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. C'est maintenant le moment de l'offrande. Eh bien, c'est l'occasion de faire le vide dans vos poches, sur votre compte bancaire. Si Dieu est rien, il ne doit rien rester dans vos poches à la fin du culte. Faites ça joyeusement en tout cas. Unissons-nous dans la prière. C'est avec crainte et tremblement que nous avons lancé quelques mots, exprimé une forme de prière. Il s'avère, Seigneur, que ta puissance est cachée dans un germe de vie. C'est ce que nous comprenons à la lecture des textes bibliques. Un germe de vie qui est un amour patient. Une force de l'esprit qui rassemble les personnes et leur donne la possibilité de se comprendre. Et tout cela est invisible. Invisible jusqu'au temps de la moisson, jusqu'à ce moment où le fruit mûr est accessible. Oui, Éternel, c'est toujours a posteriori que nous découvrons ta présence active. Ce sont toujours tes arrières que nous pouvons apercevoir. De jour comme de nuit, nous ne savons comment tu fais lever en nous cette semence qui nous pousse vers la vie, qui nous lance dans l'histoire, qui nous fait intuitionner que nous sommes plus grands que nous-mêmes, qu'il y a plus à espérer que nos espoirs, qu'il y a plus à vivre que nos rêves, et peut-être qu'il y a plus à aimer que les choses aimables que nous connaissons. Tu nous inspires cette intuition que notre nuit obscure n'est pas la fin de notre propre histoire. qu'une traversée est possible, comme la vallée où règne l'ombre de la mort, dans laquelle il est possible de ne craindre aucun mal, comme nous le promet le psalmiste. Nous aimerions dire que ta douceur nous enveloppe. Mais cela n'est finalement que la conséquence de notre vie en Dieu. Cette demeure pacifiée. Alors, par la force de ton esprit, Seigneur, accorde-nous d'être tout simplement, être ce que nous devenons. Et pour cela, accorde-nous ton esprit de miséricorde pour pleurer avec celles et ceux qui sont tristes. Manifeste-toi à travers celles et ceux qui servent leurs frères. Arme-nous du courage d'être dans la lutte pour la justice. Donne-nous d'annoncer l'Évangile avec assurance, notamment auprès de ceux qui détestent tellement la vie, auprès de ceux qui ne font justice qu'en fonction de leurs propres critères. Donne-nous d'annoncer l'Évangile universel, l'Évangile pour tous, l'Évangile de la grâce, l'Évangile de la vie, l'Évangile de la résurrection. Accorde-nous d'accomplir cette mission sans renoncement, aucun, jamais. Et lorsque nous flanchons, lorsque notre âme se fait hésitante, lorsque nous n'arrivons même plus à douter, ordonne-nous le goût de ces mots que Jésus a laissés à ses disciples comme un viatique, pour que jamais ne cesse cette traversée de la nuit obscure qui conduit à ta bénédiction. Et à leur suite, nous disons, nous aussi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est la promesse d'une demeure pacifiée comme horizon pour chacun, car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, le témoin fidèle, l'homme véritable. Amen.